Il est 20h sur Radio Campus Paris. Bonsoir à tous. Ce soir, c'est une émission très spéciale. On lance la saison 7 du Lobby. 7, c'est un peu le chiffre fétiche des numérologues, ma pseudo-science préférée. C'est un chiffre qui porte bonheur, qui représente l'introspection, la sagesse, mais aussi le passage d'un état à l'autre, l'évolution.
Bon, pour l'instant, l'évolution, on n'y est pas trop, ça va devenir une habitude, mais comme l'année dernière, qui dit nouvelle saison du Lobby, dit nouveau premier ministre homophobe. On a eu Michel Barnier, François Bayrou, et maintenant Sébastien Lecornu. 100% de calvitie des golfs, 0% de vote en faveur du mariage pour tous.
Et en plus, il est Gémeaux. Et vous savez ce qu'on dit sur les Gémeaux? Bah, ils sont instables. Alors moi, j'espère qu'il va pas faire long feu à Matignon.
Je sais pas si c'est un truc de Gémeaux, Mayenne, de dire n'importe quoi, mais le Premier ministre avait déclaré en 2012 « Le communautarisme gay m'exaspère autant que l'homophobie ». Bon, nous, le communautarisme gay, on adore. Je pense qu'on devrait renommer l'émission, d'ailleurs je vais en parler à Colin, le Lobby, l'émission du communautarisme gay. Alors même si on n'a toujours pas notre première ministre lesbienne de gauche, Lucie Castet, pour nous tu seras toujours notre première ministre, c'est ce qu'on se souhaite pour l'avenir.
Et jusqu'en novembre, Saturne rétrograde. Alors pour les non-initiés, c'est une invitation à prendre ses responsabilités, à se fixer des objectifs bien précis pour construire plein de nouvelles choses. Et alors pourquoi pas renverser l'ordre établi? Alors à vos pancartes, on se souhaite aussi une mobilisation encore plus forte le 18 septembre que le 10.
Vous l'avez compris, Mayel et Antonella, on est à mi-chemin entre la Gwyn Gaucho et la Gwyn Astro. 50 Shades of Gwyn à nous deux, un combo parfait pour ce début de saison. On est ensemble jusqu'à 21h, c'est parti pour une nouvelle année à faire entendre nos voix queer sur cette antenne et ailleurs. Bienvenue.
Salut le Lobby, ça va le Lobby?
Assez cette société qui ne respecte pas les français Gwyn et les fédères.
5 syllabes, visibilité.
S'il vous plaît, je suis lesbienne.
Les questions LGBT ne sont pas des questions à part. Ouais,
c'est parce que je ne pense pas que ce soit qu'une affaire privée. En fait.
Je pense que la parole doit être surtout donnée aux personnes concernées.
Ils sont dans les campagnes, dans les villes.
On ne va pas les hommes sont dans la rue.
Ça n'a pas de rapport, mais je suis un tout petit peu hétérophobe.
On est des bad bitch.
Enfin, pardon, je parle mal là, mais...
Je raisonne jamais en termes d'espoir, je raisonne en termes de ce qu'on peut agir.
Le Lobby, Radio Campus Paris.
Et c'est parti pour une heure de radio par et pour les queers.
Alors, on n'a pas une voix aussi suave que celle de notre mère à tous. Colin, tu nous manques. Et elle a préféré écouter un concert plutôt que de travailler gratuitement jusqu'à 21h. Mais quelle toupée, n'est-ce pas? Bouh,
bouh
Colin, bouh.
Ce soir, c'est Mayel et Antonella aux manettes, les Charlie et Lulu de Radio Campus Paris, mais lesbiennes avec plus de piercing. Et celles qui n'ont pas la rêve du Hit Machine, vous êtes plus fête de l'UMA, j'imagine. Qui était la fête de l'UMA ce week-end?
Les mauvais gauchistes, les mauvais queers.
Bon, en tout cas, celles qui nous écoutent qui étaient, j'espère que vous avez réussi à faire partir la boue de vos jeans baggy et à plier la tente quechua. Évidemment, puisque vous étiez avec vos copines butch qui savent tout faire.
Et les femmes aussi, elles savent tout faire. Hein. Femme Lives Matter d'abord. Et au sommaire, aujourd'hui, on reçoit Tout le monde s'appelle Clara, un groupe de 5 meufs extrêmement stylées qu'il va falloir suivre de très près parce qu'elles ont fêté leur 1 an à Rock en Seine cet été. Rien que ça. Vous allez fêter vos 2 ans à Glastonbury et les 3 ans à Coachella, c'est ça? On va voir.
Et Mal, qu'on ne présente plus, c'est ta deuxième rentrée au Lobby, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu te souhaites pour cette saison?
Eh bien, je souhaite de réveiller la folle qui sommeille en moi, plus sérieusement, de me mettre sérieusement à Drag Race.
En deuxième partie d'émission, tu reçois un invité très spécial dont le discours nous tient à cœur.
Oui, on reçoit Timothée Magellan, cofondateur de Queer Education, pour parler de LGBTI-phobie institutionnelle suite au suicide de Caroline Grandjean.
Et bon, comme l'actu de la planète queer, parfois il y a aussi des bonnes nouvelles. On aura une chronique d'Alexis sur la grande gagnante de Drag Race France All Stars. J'ai dit Mami Watatatatata. Et pourquoi? C'est ça la France qu'on aime, n'en déplaise à Sébastien Lecornu, pas vrai Alexis?
Exactement, ça nous fait bien plaisir qu'elle ait gagné cette saison et je vais vous dire un petit peu pourquoi. Voilà, il y a plein de choses très positives là-dedans.
On en parle tout à l'heure en fin d'émission.
Voilà le menu de cette émission réalisé par Suzanne Saint-Cast. On est ensemble jusqu'à 21h. Soyez les bienvenus.
Le Lobby, Radio Campus Paris.
Mayel, est-ce que tu t'appelles Clara, toi?
Bah oui.
Toi, Mal, tu t'appelles Clara?
Absolument.
Alexis, tu t'appelles Clara ?
Bah du coup, oui.
Bah, moi aussi, je m'appelle Clara en fait. Tout le monde s'appelle Clara ce soir. C'est un groupe de 5 meufs qui font du rock hyper sensuel, un peu sale. C'est aussi très soul, c'est de la chanson française. Et c'est du baume au cœur de la Antonella adolescente qui se dessinait sur scène avec des t-shirts déchirés et des cheveux devant les yeux. Vous avez été sur la scène des artistes à suivre à Rock en Seine cet été.
Et vous allez nous présenter votre nouveau single « Murmure » qui sort le 19 septembre et qu'on va écouter en avant-première au lobby dans un instant. Mais avant ça, c'était comment Rock en Seine alors ?
En vrai, c'était une expérience hyper intéressante, très formatrice pour nous. Déjà, on était hyper surprise du nombre de personnes qui étaient là dès le début du set. Et ils étaient hyper chauds en fait. Voilà, c'était très très cool.
Et c'était assez ouf de se retrouver à Rock en Seine pour les 1 an du projet. Enfin, c'était une espèce de consécration de dingue, quoi. Enfin, c'est vraiment la reconnaissance de notre travail. Enfin, c'était fou.
Et ce serait quoi vos prochains goals de carrière, alors d'autres festivals qui vous feraient kiffer de fou ?
Moi, j'avoue, il y a un festival, c'est le Rose Festival à Toulouse, le festival de Big Flo Oli. Vraiment, c'est mon but ultime.
D'autres goals festival, vous allez partir en tournée mondiale ?
Un jour peut-être, ce serait super. Jouer au Canada, ce serait vraiment très bien, je trouve. Je sais pas.
Oui.
Et alors, comment vous êtes rencontrés ? D'où vient ce projet ? Comment ça commence finalement ?
Alors, c'est moi qui commence toute seule sur mon petit piano dans ma chambre. J'en ai eu un petit peu marre de faire ça parce que c'est super dur d'être seule. Et d'ailleurs, j'ai une énorme admiration pour les artistes qui sont seuls en scène, tout simplement parce que c'est très très difficile. On peut se reposer que sur soi-même. Et donc, j'ai voulu monter un groupe et j'ai rencontré Roxane qui fait de la guitare, de la clarinette et des chœurs dans le projet au lycée. Voilà, on a fait un concours de chant ensemble, même. Voire même, on se serait rencontrés en CM2. Mais qui a des souvenirs de ça ?
Personne.
Voilà.
Ouais, c'est une légende.
Voilà. Et ensuite, après, on a rencontré donc Malo Texier en jam et en scène ouverte. Et moi, je suis allée la voir 4 fois en concert depuis plus, parce que je suis trop fan de son projet. Et un jour, elle m'a fait « Ouais, Clara, est-ce que tu cherches une bassiste ?» J'étais genre « Non, non, j'ai pas du tout fait ça, pardon. » J'étais choquée qu'elle me parle juste parce que je suis genre « Oh, elle est tellement stylée et tout. » Et un jour, je lui ai proposé, elle était genre « Oui, de fou !» Voilà. Et ensuite, on cherchait une batteuse. Roxane a été la coach de Lisa pour un tremplin un peu pour les ados, les ados. Et elle m'a dit, ouais, dans 3 ans, tout le monde s'arrache tout le monde va se l'arracher. J'étais genre, c'est maintenant dans mon équipe. Et pour terminer, il y a eu Réjeanne qui arrivait dans le projet parce que justement, on cherchait une claviériste qui faisait plus de la musique actuelle, qui pouvait faire des impros, ce genre de choses. Et donc, on a vraiment cherché. J'ai passé une annonce sur Instagram qui n'a pas du tout marché. Il n'y a que des hommes qui ont répondu. J'étais genre, non, non, vous n'avez pas compris, non. J'ai demandé à Maëlle qui a dit il y a une pote d'enfance de ma fiancée qui fait ça. Donc voilà, Réjeanne qui est arrivée dans le projet.
Et tu dis les hommes, c'est non. Ça change quoi d'être 5 meufs managées par une meuf ? Ça change quoi de faire de la musique entre meufs ?
Moi, je pense qu'en termes de confiance, moi en tout cas, je me sens vraiment plus en confiance avec vous. C'est plus facile pour moi de tenter des choses, de vous proposer des trucs. Je pense qu'il y a beaucoup ça.
Vas-y.
Oui, pareil pour nous aussi. On se sent plus d'oser des choses qu'on n'aurait pas faites s'il y avait des hommes. Parce que, mine de rien, on a l'impression des fois quand il y a des hommes, même quand tu travailles dans le secteur de la musique, qu'il y a toujours un petit truc, même si c'est pas forcément dit, qu'il y a toujours un homme qui va un peu chapeauter le truc. Et du coup, moi, je voulais pas du tout retrouver ça. Voilà.
Ouais, grave. Franchement, pour avoir joué dans plusieurs projets, je trouve que la différence sur ce qu'on s'autorise à tester, elle est mais immense, quoi. Enfin, on se donne aucune limite quand on crée ensemble. Hop là, on se donne bonjour, on se donne aucune limite et c'est ça, je pense aussi qui fait l'alchimie de l'équipe, quoi.
Il y a aussi le fait que du coup on a pu créer une bande de copines. Ce qui ne peut pas arriver avec un copain, parce que c'est plus une bande de copines. Enfin, et ça, c'est précieux, parce que forcément, ça se ressent sur scène, forcément, ça se ressent dans le travail, dans l'envie de s'investir, etc. Donc c'est, voilà.
Dans la musique, ça arrive pas souvent, non, d'être qu'entre meufs ?
Pas souvent, non.
Jamais.
Ouais, c'est un milieu qui reste compétitif aussi. Et c'est important pour vous, cette, justement, cette sororité, cette bande de copines, pour avancer, aller à des endroits qui ne sont pas forcément toujours hyper ouverts ou hyper safe.
Complètement. On a même mis en place entre nous un protocole de si jamais on fait face à des violences sexistes, racistes dans notre dans le milieu de la musique, quoi. C'est vraiment un milieu de requins, donc on sait que entre nous on est soudés et qu'on est capable de répondre à ça, et rien que ça soulage, quoi, tu vois, quand on arrive dans un lieu qu'on connaît pas avec des gens qu'on connaît pas, souvent énormément d'hommes blancs cis hétéros de 40 ans, et du coup voilà, ça fait du bien d'être en team.
Et comment on fait pour composer à 5 comment on se met d'accord? Ça fonctionne comment chez vous, en tout cas?
Moi, je sais que j'arrive souvent avec, j'arrive avec des idées de mélodie, avec des accords, les paroles. Et après, je leur propose. Et juste, on voit là où ça nous mène, hein, tout simplement.
Bah, on tente plein de choses. Mmh. Et on n'est jamais fermé à des possibilités. Si on a une qui a une idée, on va toujours tester et voir ce qui marche. Et des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Mais voilà, toujours tester. Et généralement, c'est assez global quand même, comme
processus,
comme décision. Où après, on va dire, ah oui, ça on garde, ça on garde pas. Voilà.
Bon, en général, ça marche plutôt très très bien. Et on va écouter ça tout de suite parce que vous nous faites l'honneur de nous présenter votre morceau en avant-première. C'est prévu pour le 19 septembre, mais voilà, vous nous faites ce cadeau-là ce soir. On va écouter Murmure de Tout le monde s'appelle Clara.
Et quand j'ai pensé à toi, assise dans le train, à tout ce que je pourrais faire de mes mains, qui pourrait glisser le long de tes cuisses, qui caresserait ta peau jusqu'à ce que tu frémisses, et je pourrais te chuchoter tout un tas de merveilles, de ma bouche blottie contre ton oreille. Le silence déchire en suivant ta courbure, et j'aurais réussi si demain t'as des courbatures. On gardera la lumière allumée pour que mes yeux ne puissent rien rater. On s'allongera comme le soleil en crépuscule qui viendra embraser même la plus fine des particules. Je ne peux rien t'avouer, puisqu'on s'est salement embrassé. On prendra le temps que tu veux, et t'inquiète pas, je suis très forte à ce jeu. Mais je devine qu'au fond de toi tu brûles. Pourquoi te retenir, s'il te plaît, capitule, et viens te réfugier au creux de mes bras. Tu sais que je prendrai bien soin de toi. Gardera la lumière allumée pour que mes yeux ne puissent rien rater. On s'allongera comme le soleil au crépuscule qui viendra embraser même la plus fine des particules. Sur tous les toits, il n'y a que toi qui n'entends pas. Si tu savais comme je t'aime. On gardera la lumière allumée pour que mes doigts ne puissent rien rater. On s'allongera comme le soleil au crépuscule qui viendra embraser même la plus fine des particules. On gardera la lumière allumée pour que mes yeux ne puissent rien rater. On s'allongera comme le soleil au crépuscule qui viendra embraser même la plus fine des particules. On gardera.
C'était Murmure de Tout le monde s'appelle Clara. Et pour les auditeuristes qui nous rejoignent, vous écoutez Le Lobby sur Radio Campus Paris.
Le lobby. Radio Campus Paris.
On est toujours avec le groupe Tout le monde s'appelle Clara. Il est hyper beau ce morceau, Murmure, hyper sensuel, hyper sexy. Qu'est-ce que ça raconte ?
C'est un morceau que j'ai écrit quand j'étais dans le RER A pour ma crush. Voilà, je crois qu'elle n'est pas au courant. Que je sais pas, elle n'est jamais venue nous voir en concert en tout cas, donc je sais pas si elle le sait. Mais j'ai écrit ce morceau et en fait, je voulais vraiment avoir une chanson très imagée avec, je parle du soleil, des particules, parce que j'ai eu cette vision-là en écrivant. Et après, on l'a mis en forme ensemble avec des voix, notamment celle de Malo qui arrive, qui nous fait des trucs hyper stylés. Voilà.
Pourquoi c'est important de raconter, de narrer en musique aussi d'autres récits, de l'amour entre femmes, du désir d'une femme pour une autre femme Pourquoi tu trouves ça important de raconter ça?
Parce qu'en fait, moi, c'est ça que je voulais voir. Et c'est une façon aussi pour moi de me sentir légitime. J'ai eu un peu de mal à me sentir légitime dans la communauté queer en tant que personne bisexuelle, parce que j'ai beaucoup été en relation hétéro avant. Et trouver sa place, c'est un peu compliqué. Et j'avais aussi envie moi-même de me dire que bah, je suis une personne queer et qu'en fait, je vis des histoires d'amour avec des personnes qui ne sont pas des hommes cis. Et j'ai le droit. Et voilà.
Donc on est un peu sur des textes qui permettent de se réapproprier ses émotions aussi. C'est quoi pour toi se réapproprier ses émotions justement ?
Pour moi, c'est embrasser la palette d'émotions qu'on vit, que ce soit là le désir, l'amour, mais dans d'autres chansons, il y aura plutôt la rage, le désespoir. Il y a aussi beaucoup de tristesse à des moments, de la mélancolie. Pour moi, c'était vraiment toute une espèce de cycle d'émotions qu'on peut vivre en tant que personne humaine. J'ai vu ça comme ça.
Et est-ce que musicalement, vous avez les mêmes influences ? Est-ce que vous venez des mêmes endroits ? Comment vous avez allié tous vos univers ?
Je pense que ce qui fait la force de notre équipe, c'est qu'on a quand même toutes des univers musicaux assez différents, mais avec des rêves communes qui sont centrales et qu'on partage.
Lesquels ?
Aïe aïe aïe, je regrette d'avoir dit ça.
Moi j'entends grave, attends je vais t'aider. Moi j'entends grave du Portichette dans ce que vous faites, dans le côté très sensuel, très planant. Allez, donnez-moi d'autres noms.
C'est fou, je pense années 90, pas mal pour le années 90, pas mal pour certaines d'entre nous. Et sinon, globalement, la soul et la chanson à texte, c'est vraiment, je pense, ce qui nous unit, quoi. Enfin, c'est le cœur de ce projet, voilà.
Et c'est vrai que tout à l'heure, en vous écoutant, je recherchais aussi des références en français parce que vous chantez en français. Bah, vous faites du rock assez progressif. On a l'habitude de l'entendre chanter en anglais. Pourquoi le français et c'est quoi vos influences francophones ?
Moi, c'est parce que j'adore le français. Quand j'ai commencé à écrire, quand j'avais 16 ans, j'écrivais qu'en anglais, en mode c'est un peu stylé et tout. Et ma famille était là, écris en français. Et je dis genre, non, je fais ce que je veux. Et un jour... j'ai commencé à mieux maîtriser la langue. Ça fait un peu peur d'écrire dans sa langue maternelle. Mais maintenant, je pense que je ne pourrais pas trop faire autre chose parce que c'est la langue que je maîtrise le mieux. J'aime beaucoup jouer sur les sens des mots, sur faire des figures de style, les assonances, ce genre de choses. J'adore faire ça. Et donc, je ne me verrais pas écrire en autre chose qu'en français, finalement. Hein. Voilà. Et en référence, j'arrête pas de citer Nougaro tout le temps parce que vraiment, je suis trop fan de lui. Et je trouve qu'il est... c'est un hyper bel interprète et qui écrit très bien, voilà, et je le trouve très inspirant. Mais il y a aussi des gens genre Barbara Pravi, voilà, j'aime beaucoup aussi.
Donc au-delà de la chanson, c'est aussi la poésie et même le côté littéraire qui t'inspire pour écrire, c'est ça ?
Ouais, bah oui, complètement. Ouais, complètement.
Et si vous deviez caractériser votre genre, ce serait quoi ?
C'est un long débat. J'ai l'impression qu'on a encore le projet avec un an et on a encore un petit peu du mal à trouver la formule qui résume bien. Ces derniers temps, on a parlé de soul rock alternatif parce que, l'air de rien, la soul est autant présente que le rock. Dans certains morceaux, l'équilibre, il est... Bah là, on était vachement plus soul quand même. Donc, c'est encore difficile de trouver le terme exact. Mais pour l'instant, c'est soul rock alternatif. C'est ce qu'on dit là, un peu. Yes. Vous validez ? Bon. Il y a une petite quête encore.
Et la musique, vous avez
toutes vécu avec depuis que vous êtes toute petite, ou c'est une passion qui est arrivée plus tard? On aimerait bien savoir plus votre parcours un peu à chacune.
Pour moi, c'est depuis que je suis petite. Je prenais des cours dans une école où je prends toujours des cours, et je suis prof maintenant là-bas.
Bravo.
Un peu une consécration, pardon. Et depuis que j'ai 8 ans, du coup, je fais de la musique et j'adore ça, c'est ma passion.
J'ai commencé au conservatoire. C'est Réjeanne, du coup. Mais j'ai commencé à 6 ans le piano au conservatoire, où j'ai fait beaucoup de classiques. Et là aussi, où je suis en formation pour devenir fonctionnaire en tant que prof de l'État. Mais parallèlement, je voulais vraiment aussi me détacher un peu de la musique classique, où j'avais l'impression, j'avais fait mes diplômes et tout ça, mais je voulais vraiment retrouver aussi parce que j'aimais faire et jouer, écouter surtout dans mes musiques, quoi, puisque voilà. Et donc, j'ai eu un parcours aussi où j'ai fait où j'ai testé aussi d'autres choses que la musique classique, après musique actuelle. J'ai fini mes formations au conservatoire, donc voilà. Oui.
Moi, j'ai commencé la clarinette au conservatoire. En fait, on est quand même une équipe de conservatoiriennes. Et puis après, un peu comme Réjeanne, j'ai eu envie de découvrir autre chose. Et du coup, je me suis formée toute seule d'abord à la musique actuelle. Voilà, avec la guitare électrique.
Ouais, moi, Malo, j'ai fait un tout petit peu de conservatoire quand j'étais petite, mais j'arrivais pas du tout à accrocher parce que je comprenais pas trop ce que je faisais esthétiquement. Et j'ai commencé la guitare en autodidacte quand j'étais au collège. Et puis il y avait un atelier de musique dans mon collège que j'ai rejoint, et du coup j'ai commencé à chanter dans cet endroit-là. J'ai commencé à faire des guitares voix dans ma chambre. Et après le bac, j'ai passé des auditions pour rentrer au conservatoire en audition. Voilà. Et je suis rentrée en chant. Et puis j'ai découvert la basse, qui est maintenant ma plus grande passion. Et voilà.
Et toi, Clara ?
J'ai commencé à 5 ans par de l'éveil musical, genre on tapait des mains et tout. Ma mère va dire non, c'était vraiment beaucoup plus complexe, c'était vraiment super ce que vous faisiez. Et pardon maman. Mais donc j'ai commencé ça comme ça, j'ai fait de la traversière pendant 5 ans, mais j'étais hyper nulle parce que j'étais juste nulle. Et j'ai fait du piano chant en école de musique aussi. Et après j'ai fait de l'opéra, enfin du lyrique pendant 6 ans. Quand j'étais au collège en semi-pro, et après j'ai voulu faire de la musique actuelle parce que j'aimais beaucoup l'opéra, je trouvais vraiment cool, mais finalement j'avais commencé à écrire des chansons donc quand j'étais en seconde, et en fait j'ai voulu chanter ça parce qu'en fait j'adore la musique actuelle, parce que c'est pas du tout les mêmes techniques de chant. Et donc après j'avais entendu les progrès qu'a fait Roxane en chant en étant au conservatoire, et donc j'ai voulu aller au même conservatoire. Et donc j'y suis allée, j'ai fait donc du chant musique actuelle au conservatoire, et je crois que c'est à peu près tout, voilà. Et j'ai fait j'ai appris le ukulélé dans ma chambre, et la guitare, sachant que je suis vraiment très peu forte, dans ma chambre aussi. Voilà.
On a beaucoup dit le mot conservatoire. Je suis choquée. Le nombre de fois. On va faire un compteur à la fin.
Oui, j'allais dire, du coup, vous avez tout un parcours vraiment professionnel, classique, école, etc. La musique, on entend souvent que c'est pas hyper accessible, justement, comme art pour s'y mettre quand on vient d'un milieu plus populaire ou autre. Est-ce que vous aussi... en faisant de la musique, vous avez envie de donner envie à d'autres gens de se lancer, à montrer qu'on peut y arriver en autodidacte également, même si vous avez ce parcours.
Je trouve que en 2025, la musique est beaucoup plus accessible qu'elle ne l'a jamais été. Et même, j'ai remarqué dans les parcours des personnes avec qui j'ai pu être au conservatoire, ou plein de gens, j'ai observé, voilà, que parfois même être au conservatoire, ça peut desservir d'une façon ou d'une autre, parce qu'on commence à faire de la musique pour les musiciens, plutôt que de rester sur des choses simples, efficaces et intuitives et instinctives. Et en fait, je pense que dans les hits 2020, je pense des 10 dernières années, le nombre de personnes qui sont passées par le conservatoire, même dans les équipes des personnes qui travaillent, il n'y en a pas tant au final. Voilà. Donc,
J'avais envie de rebondir là-dessus parce que j'aime bien cette question et moi c'est un truc qui m'obsède beaucoup cette question-là parce que je suis guitariste et donc j'ai commencé à guitare toute seule mais après j'ai fait un peu de conservatoire again et moi aucun prof ne m'a jamais dit de toute ma vie que je pourrais être guitariste pro et pour bosser aussi en école de musique en fait il y a plein de petites filles qui commencent la guitare et en fait il y a aucune adolescente qui fait de la guitare et encore moins de femmes adultes et du coup ça s'éloigne un peu de ta question sur l'origine sociale d'où tu viens, mais globalement, être des meufs qui instrumentistes, compositrices, enfin, c'est tellement important. Ouais. Moi, franchement, si j'avais vu un groupe comme le nôtre à 8 ans, mais ça aurait changé ma vie, c'est sûr, quoi.
C'est sûr. Voilà. Bah, c'était un peu la suite de ma réflexion. Est-ce qu'avec ce groupe, c'est aussi un moyen d'être une représentation de plein de choses, en fait?
Ah, mais de fou.
Ouais. D'être celle que vous auriez voulu voir quand vous étiez petite, finalement.
Mmh. Grave.
Mais ouais, je suis trop contente de proposer ça, en fait. Parce que je pense à toutes les deux, Roxane et moi, on est passées par le conservatoire. On était en chant, en fait. Tu veux te former en chant. Et dans mon conservatoire, en musique actuelle, toutes les meufs étaient en chant, quoi. Sans exception, toutes étaient bonnes dans un instrument. Très bonnes, même. Parfois même meilleures que chanteuses. Mais au final, elles passaient leur diplôme en chant. Et de se dire que potentiellement il y a des petites nanas qui vont faire des musiques, c'est trop cool.
Et justement, comment on fait pour aller vous voir sur scène? C'est quoi les prochaines dates?
Alors, on va jouer le 22 septembre à la Boule Noire, voilà, avec le Bravo. Flag Alive. Donc, c'est bientôt, venez nous voir. Et ensuite, on va faire la première partie de Madame, qui est un groupe de rock. Vraiment féminin, elles sont trois. Et ce sera l'EMB Sanois et c'est le 28 novembre, dans mes souvenirs, 28 novembre. En tout cas, c'est un vendredi. Regardez vos agendas, c'est peut-être le 28 ou le 27. Mais voilà, on est hyper, hyper heureuses de faire leur première partie.
Et je pense que ça va être une belle soirée parce que du coup, il n'y aura que des femmes sur scène.
Ça, c'est quel rare, plaisir. Ça.
Dingue.
Et donc là, Murmure, le single sort le 19 septembre. Et c'est quoi les prochaines étapes? Est-ce qu'il y a un album prévu? C'est quoi les deadlines à suivre?
Et ben là, on est en train de faire un travail en ce moment même, en studio, pour arranger et faire des maquettes sur nos chansons. On va retravailler aussi le son, du live. Voilà, on est plutôt là-dedans, dans vraiment aller creuser tout ce qui est, tout ce qui est son. Voilà.
Aller plus loin. Et là, on est en pleine semaine de résidence et notre résidence, on le fait en banlieue parisienne et on est venu à Paris pour ça et puis on retourne dans la banlieue faire le studio.
Bon, pour terminer, c'est une question qui n'a rien à voir, mais tout à l'heure avec Mayel, on vous disait qu'on était plutôt Gwyn Gaucho et Gwyn Astro. Vous êtes Gwyn quoi, vous?
Gwyn Gemo.
Ah mince, t'as pris trop cher. Ok, navré pour ça.
Les autres de l'inspi?
Gwyn B. Voilà, on dit vive les bis.
Oui,
Gwyn Gaucho. Représente.
Oui, Gwyn Gaucho aussi. Ah. Mais oui,
bien sûr. Eh bien, merci infiniment tout le monde s'appelle Clara d'avoir été là avec nous ce soir. C'était un plaisir vraiment de vous recevoir. Et on retrouve votre nouveau single, donc Murmure, le 19 septembre.
Merci beaucoup.
Et tout de suite, on va écouter une autre meuf extrêmement stylée. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle est un peu niche encore. C'est une petite pépite, une petite découverte, parce que moi, c'est ce que j'aime faire, en fait, c'est dénicher des talents. On écoute Fashion Designer de Théodora. Bad Boy Love Story. Okay.
On vient d'écouter Fashion Designer de Théodora sur Radio Campus Paris.
Et même si ce morceau n'est pas une nouveauté de la rentrée, on ne s'en lasse pas. Par contre, ce qui n'est pas nouveau et dont on aimerait ne plus jamais, 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 jamais entendre parler, c'est l'homophobie institutionnelle.
Le 1er septembre, Caroline Grandjean, directrice d'école à Moussage dans le Cantal, a mis fin à ses jours après des années de harcèlement homophobe, sans soutien de sa hiérarchie. Et que l'éducation nationale détourne le regard et s'en lave les mains, bah malheureusement, c'est assez systématique. En témoigne la tribune dans Libération de Timothée Magellan, professeur de français et président de Queer Education, une association de membres du corps enseignant queer. C'est ton invité, Mal.
Bonsoir Timothée Magellan, merci d'être avec nous. Vous êtes donc le cofondateur de l'association Queer Education qui regroupe des membres du personnel enseignant pour lutter contre les discriminations par l'éducation et la pédagogie. Et ce soir, on parle de LGBTI-phobie institutionnalisée. Alors l'actualité foisonne de tragédies de la sorte, que ce soit avec des élèves ou du personnel. Loin d'être une négligence isolée, il faut comprendre qu'on est face à une violence institutionnalisée et structurée à plusieurs niveaux. Alors comment vous pouvez expliquer un peu comment s'articulent les LGBTI-phobies au sein de la sphère éducative?
Alors je vais revenir sur une première chose, je ne suis pas le président de Queer Education, on a un fonctionnement assez horizontal. Pour revenir justement sur l'expression des LGBT-phobies au sein de l'institution, elle s'exprime de différentes manières. Si on essaye un peu de tracer des lignes pour comprendre ces LGBT-phobies et leur expression, il faudrait revenir sur plein de choses. Tout d'abord, revenir sur le traitement des personnels éducatifs qui sont trans, gays, lesbiennes, et de leur invisibilisation, sinon de leur anéantissement. Et dans la tribune que j'ai écrite, je parle beaucoup de cette question-là, à savoir que l'institution, en fait, elle mène des politiques d'épuisement contre les personnels queer, qui visent souvent à leur invisibilisation et qui, à terme, mènent à leur anéantissement. Et on l'a vu avec Caroline, ça s'exprime notamment par son suicide. Cette LGBT-phobie, elle traverse un peu toute l'institution, en fait, à différentes échelles. Elle va beaucoup s'exprimer, en fait, de la part des collègues, notamment. On est assez peu habitué, en fait, à recevoir des témoignages quand on n'est pas dans le milieu éducatif sur, en fait, des propos de gens donc concernés par les LGBT-phobies qui relatent un environnement, en fait, au travail qui est relativement hostile, si ce n'est nuisible. Et puisqu'on s'attend plutôt à ce que cette homophobie ou cette transphobie, elle vienne de la part des élèves. Mais on oublie trop souvent que ce sont souvent les adultes qui sont les premiers instigateurs et instigatrices de cette violence. Et en fait, si l'on veut, on va avoir tout un système qui va protéger, sinon entretenir, en fait, cette violence.
Et en effet, la seule proposition d'une ébauche de solution qu'on propose à Caroline, c'est une mutation, c'est-à-dire de partir dans un autre établissement, se faire muter, vous le mettez en parallèle avec mute, en anglais silencier. Est-ce que c'est symptomatique, ça, cette stratégie de silenciation de la part de l'éducation nationale? Ça me rappelle aussi le mouvement Pas de vague d'il y a quelques années.
Totalement. Vraiment, cette logique de la placardisation, qui est une mécanique qu'on connaît assez bien toutes et tous dans nos vies, on la retrouve vraiment frontalement dans l'éducation nationale. Là aussi, en fait, elle va s'exprimer de différentes manières. Je parle beaucoup aussi de cette injonction à la neutralité, qui est une première manière d'invisibiliser nos vécus. C'est-à-dire qu'on nous somme de ne pas parler de notre orientation sexuelle, d'aller à l'encontre d'une objectivité dans le champ éducatif. Alors qu'en fait, c'est ce que j'explique aussi très bien, nos élèves, ils ne sont pas innocentes et innocents, et elles savent très bien qu'on est LGBT. Ça, c'est un premier point. Et... Et donc, pour continuer sur cette thématique-là et l'idée de cette invisibilisation, ouais, en fait, donc ça va se faire aussi par des personnels de direction qui sont très zélés aussi dans cette volonté d'invisibilisation, qui portent aussi souvent un discours innocent, mais qui est en réalité réactionnaire. Donc, en fait, si on cherche, nous, à faire remonter des choses, que ce soit en lien avec nos collègues ou avec nos élèves, souvent, on n'a pas de réponse adéquate. Mmh. C'est-à-dire que, enfin, moi, j'aime bien parler de cette expression qui est « nous sommes des victimes insupportables ». C'est-à-dire qu'on fait trop de bruit, on parle trop, on est pénible. Il y a un texte de Sarah Ahmed qui en parle beaucoup, qui est « Vandalisme queer », et qui dit une chose très simple, qui est que quand on est queer, on est toujours accusé de salir ce qui est beau, ce qui est vénérable. Et on a l'impression que dans l'institution, on est vu comme justement des personnes qui dégradent l'école. Et en fait, cette accusation, elle est très lourde à porter au quotidien. Et ça, elle est vraiment au service d'un processus d'invisibilisation.
Et alors, comment on peut faire changer les choses de l'intérieur ? Je pense à l'histoire de Caroline qui s'était associée avec le bédéiste Christophe Tardieu pour raconter son histoire. Suite à ça, Caroline passe devant le tribunal, mais pas en tant que victime, en tant qu'accusée, car l'Éducation nationale l'accuse de diffamation. Est-ce qu'on envoie tous nos enseignants et enseignantes vers un burn-out politique dans cette...
Je crois que d'une certaine manière, oui. Justement, Queer Education, c'est aussi une association qui, par l'énergie collective, cherche à lutter contre ces politiques d'épuisement et d'anéantissement. Donc pour moi, une des solutions qu'on a trouvées, c'est vraiment l'idée d'un autosupport. J'aime beaucoup dire que la douceur qu'on se porte les uns les unes aux autres, c'est une première forme de résistance politique au sein d'une institution qui nous malmène. Et donc vraiment insister là-dessus, peut-être pour les personnels ou les gens qui travaillent dans l'éducation qui se sentent isolés, de commencer à tisser des liens, à peut-être venir à justement des groupes de parole qu'on peut animer. Je sais que Caroline Grandjean, elle a beaucoup souffert aussi de la solitude. Mmh. Et que cette solitude et cette détresse psychologique, elle est parfois telle qu'on a beau être entouré, si on n'est pas en lien avec des personnes qui vivent exactement ce qu'on traverse, on a l'impression qu'à un moment, notre réalité nous échappe. Et c'est ce qui m'est arrivé dans un de mes anciens établissements, c'est-à-dire que la réalité est tellement violente qu'à un moment, on se dit qu'on a inventé des choses. Et donc voilà, donc, en fait pour moi c'est une affaire de résistance, c'est une affaire de syndicalisme, c'est-à-dire que donc, de ne pas rester seul, de mener des combats avec des alliés, donc très rapidement essayer d'identifier les alliés et de se servir de la loi. Donc là il faut le rappeler, hein, mais il n'y a pas du tout d'obligation à une prétendue neutralité en matière de lutte contre les discriminations. Au contraire, on est censé lutter contre les discriminations, ça figure au bulletin officiel. Et donc, moi, j'aime bien passer par les outils de l'institution pour la combattre. Mmh. Parce que c'est souvent la meilleure manière pour être entendu et être écouté et les faire plier de cette manière-là.
Et justement, est-ce que le travail de l'association s'articule avec... Est-ce qu'il y a d'autres contre-pouvoirs comme des syndicats ? Est-ce qu'il y a des dialogues qui peuvent parfois être houleux ? Avec mmh. les syndicats ou...
Est-ce que du coup c'est compliqué avec les syndicats, ça ?
Oui, c'est ça, oui.
Tout dépend du syndicat, j'ai envie de dire, parce que du coup entre le SNALC qui est plutôt de droite et celui d'éducation, c'est pas la même chose. On en a beaucoup parlé en interne, enfin, la manière dont les queerphobies sont reçues aussi au sein de nos syndicats, c'est pas forcément toujours évident. Personnellement, moi je suis syndiqué chez Sud Éducation. Alors il y a beaucoup de choses qui sont faites, il y a une commission qui lutte contre les LGBT-phobies. Donc ça, on est quand même plutôt écouté et Queer Éducation intervient notamment dans les milieux syndicaux pour les former. Et je pense que ça, c'était aussi quelque chose qu'on a apporté dans l'histoire de la lutte éducative. Mais les premières fois où j'ai rejoint Sud Éducation, il y avait des personnes qui avaient un bagage militant extrêmement fort, mais qui n'avaient jamais pensé leur condition de lesbienne, par exemple, et qui étaient très surpris de voir qu'on le pensait et qu'on l'intégrait tout à fait à cette lutte politique, à cette lutte de classe qui est souvent, portée par ces syndicats.
Et votre association aussi propose, enfin l'association propose des guides, des auto-formations pour une école plus inclusive. J'ai l'impression que vous avez quand même une tâche un peu ingrate qui est de, bah, d'un côté protéger les élèves queer, mais aussi et surtout se protéger devant un système qui écrase les personnes queer. Mmh.
Elle est ingrate, mais elle est super belle. Parce que du coup, pour moi, il y a quelque chose de très poétique aussi à inventer ces manières de résistance, à retracer aussi notre histoire militante et collective. Là, on est en train de travailler justement sur l'histoire de la lutte à l'intérieur du milieu éducatif. Donc, oui, on voit l'aspect écrasant, mais souvent, moi, quand je suis dans des actions, et quand je suis dans la lutte, quand je suis aussi avec mes camarades, ce que je vois, c'est beaucoup de sourires. Et ça, c'est quelque chose qui en fait nous porte. Oui, on a beaucoup à faire, mais on est aussi à un endroit où je dirais qu'on a une forme d'avant-garde dans le champ pédagogique, et on est en lien avec d'autres collectifs qui, elles aussi, nous portent. On organise des choses avec des comités antiracistes, avec des associations qui luttent contre le validisme. Donc en fait, on est aussi porté par cet élan collectif.
Et pour tous nos amis queer et profs, comment on peut rejoindre l'association? Comment on peut contribuer?
C'est hyper simple. Vous pouvez aller sur queereducation.fr et du coup, vous rejoignez notre Hello Asso. Vous pouvez adhérer, il y a des tarifs différents. Et disons que l'adhésion est une première manière de rentrer dans l'association, parce que vous allez être un peu au fait de ce qu'on mène. On organise plusieurs événements à venir. On va retrouver une queer messe qui va être organisée à la Bulle, donc à destination des enfants, des jeunes et des adolescentes. Il devrait avoir une table ronde à la Flèche d'Or. On mène des levées de fonds en lien avec la Pride radicale, et on organise aussi des groupes de parole. Donc rejoignez-nous aussi sur Instagram si vous désirez recevoir ces informations et être au fait de notre actualité.
Et pour queeriser les salles de classe, on vous retrouve aussi au festival Jerk Off le 27 septembre à Pantin, où vous donnez une performance qui s'appelle Dédale, en deux mots. Est-ce que vous pouvez justement nous dire deux mots ou plus sur cette performance?
Dédale, elle est vraiment venue de mon expérience dans l'enseignement en tant que prof PD. J'ai imaginé une scénographie assez simple, en fond, donc un décor de faux plafond qui est le décor par excellence de l'école, mais aussi celui des espaces donc, qui sont ceux des coworking ou des bureaux. Et donc il y a un personnage qui traverse ce faux plafond et il est soumis à une énigme assez étrange qui est la suivante. À l'école, les pédales dédalent, les pédales détalent, et il a 30 minutes pour la résoudre, et il se retrouve en fait confronté à des espèces de petits personnages comme dans un jeu d'arcade. Et donc il y a tout un jeu sur, si j'ai créé cette performance, c'était beaucoup pour revenir sur l'accusation qui nous était faite à nous, personnel queer, de souvent tout confondre. Et je pars de cette énigme comme justement une confusion pédale, dédale, et cette idée que, en fait, à travers la performance, il faut retrouver une forme de clarté, une forme d'assise pour justement lutter efficacement. Donc c'est un peu une espèce de jeu à la fois poétique, politique aussi.
Qui doit être aussi extrêmement libérateur, parce que cet engagement artistique, est-ce que c'est pas aussi un moyen de retrouver cette voix et ce cri qu'on vous arrache dans le métier?
Tout à fait. Enfin, oui, je pense que je le vis aussi comme le retour de mon agentivité. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quand je suis à l'école, mon corps, il est assez pris d'une certaine manière par l'institution. Il y avait l'idée de revenir sur scène en réincarnant toute la personne que je suis. Il y a une phrase qui est très importante dans ma performance, mais qui est « je marche dans la cour et c'est déjà une performance ». Et ce que je souhaite interroger, c'est en fait, en réalité, elle se mène où la performance? Est-ce que du coup, elle est davantage sur scène, ou est-ce que pour nous, personnel queer, elle ne se joue pas tous les jours à l'école?
Merci beaucoup Timothée. Donc on retrouve votre performance Dédale au festival Jerk Off le 27 septembre à Pantin.
Et merci beaucoup Timothée Magellan d'avoir été notre invité ce soir. Quant à nous, on va faire une petite pause musicale. On est toujours sur une playlist 100% faite de l'UMA. On part sur Théa qui était sur la scène du concert pour la Palestine. On écoute Juste Amis.
That's weird, isn't it? I mean, anything that could have happened, do you know what I mean? And it'd just be normal, man. I'd just be like,
no, don't say that. Paris parle de moi, mais je veux m'endormir dans ses bras. Dans les quais basses, j'ai lu ton regard. Si tu prends ma main right now, je te promets que on ira danser dans les technivals, vider tout le tequila qu'il y a dans les toilettes du bar. Mes promis c'est amical. Mes promis c'est amical. S'aimer sous les barricades, cramer toute la capitale, se tenir la main sur les toits. Mes promis c'est amical. Mes promis c'est amical. Je crois que j'aime pas le goût de la vie. J'ai trac de ta genre toute la nuit. Si ta vie m'arrête, t'es pas enfui. Tu me croques les fesses quand je m'habille. Je veux pas finir d'être dans ma bille. Je veux pas finir toute seule d'être dans ma bille. Parce qu'il faut bien laisser une trace dans un regard ou dans la glace. Où mon amour fait moi la place. J'étais la dernière de la classe. J'ai le cœur fêlé comme ice, phalange chérie comme d'hab. Pour toi j'irai tout défoncer, les mecs relous, les députés. J'irai sauter sans rappel, je te chanterai que la vie est belle. J'en crois pas en moi mais je croyais en rien avant ton je t'aime. Si tu veux on reste amis, si tu veux c'est ça qu'on dit. Mais j'ai fait le tour de Paris, ouais j'ai fait le tour de Paris. Je vois que toi dans les humbles soirs. Tu sais tout Paris parle de moi. Mais je veux m'endormir dans tes bras. Dans les quais. On ira danser dans les technivals, vider du tequila dans les toilettes du bar. Mes promis c'est amical.
Boy I'm hungry.
Mes promis c'est amical. On ira s'aimer sur les barricades, cramer toute la capitale, se tenir la main sur les toits. Mes promis c'est amical. Mes promis c'est amical.
Uh-oh.
On ira danser dans les technivals, vider du tequila dans les toilettes du bar. Mes promis c'est amical.
C'était Juste Amie de Théa qui était sur la scène du concert pour la Palestine à la Fête de l'Humain. On n'en a pas assez parlé, mais voilà, on en parle quand même un tout petit peu. Et parce que les nouvelles de la planète queer sont pas seulement tristes, mais parfois elles sont excellentes, on parle de Drag Race France All Stars. Perso, ça a illuminé mon été, que je le regarde avec mon amoureuse ou en groupe avec des gens qui crient très fort. Trop fort à mon goût. C'était ma soirée préférée de la semaine, le jeudi soir. Et même si j'adorais Ellipse, mon bébé, j'avoue que mon cœur, il était à Mami Watatatatata.
Yes.
C'était ma star. C'était qui vous, vos chouchoutes?
Mami Wata, 100%.
Moi, j'avoue, j'adore Ellipse, mais Mami Wata m'a grave fait rire. C'était super.
Toi, Alexis, c'était très clair, c'était Mami Wata.
Bah, écoute, oui, effectivement. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que nous avons une nouvelle personne à la tête du pays. Et oui, depuis le 28 août, nous avons une nouvelle reine de France. Désolé pour ce faux espoir. Bref, Mami Wata a remporté la couronne de Drag Race France All-Star et ce n'est pas n'importe quelle reine. Arrivée en saison 2 sans tissu, dans ce All-Star, elle nous a tous surpris. Oui, parce qu'elle était vue un petit peu comme la queen immigrée, précaire. Lorsqu'elle a remporté ses premiers sous grâce à ses victoires, on a d'ailleurs entendu quelques vannes voilà, sur le fait qu'elle en aurait bien besoin. Alors, dans sa première saison, elle nous a sûrement plus marqué par son humour que par ses tenues flamboyantes et extravagantes. Puis, elle a eu 2 ans pour renflouer un petit peu son porte-monnaie, ce qui a très bien servi les messages qu'elle avait à faire passer. Elle nous a pas juste montré que c'est faire une queen qui a des sous, elle s'en est très bien servie pour créer des looks impactants qui nous parlent de ses origines ivoiriennes, ce qu'on représente encore assez peu dans l'audiovisuel français, alors qu'il y a pourtant 60% des expatriés ivoiriens qui s'installent en France, c'est un peu moins d'un million de personnes à peu près. Tout ça en réussissant très bien à s'inscrire dans les thèmes imposés lors des runway, chirurgie esthétique, cirque, les méchantes. Et on se rappelle par exemple de sa représentation d'une femme girafe ou encore de son interprétation d'un masque traditionnel dans la danse zaouli rattachée au mythe de Mami Wata. Puisque je le rappelle, Mami Wata est une divinité ivoirienne qui habitait les hommes trop efféminés ou les femmes trop libérées. Ce qu'elle s'est très bien rapproprié et qu'elle souligne dans sa chanson « Moi, 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 africaine, libérée, plus jamais enchaînée ». Alors, vous me direz qu'en termes de représentation de Queen racisée, on a aussi vu Norma Bell, Keyona, qui a très bien su ramener la culture ballroom dans l'émission, ou Suhan de Mus, qui nous rappelle aussi très bien les ravages de la colonisation. Mais ce qui m'a particulièrement plu chez Mami, c'est qu'elle a réussi à parler d'une génération tiraillée entre des traditions écrasantes et un monde moderne un peu difficile à appréhender, le tout avec une sensibilité et une esthétique assez folle. Je crois que c'est aussi grâce à son humour qu'elle s'est attirée une sympathie particulière du public. Et elle a eu l'intelligence de créer un lien entre des références populaires, des références populaires, et une queerness réprimée. Cet engagement va au-delà de l'émission, puisque sur Instagram, elle nous montrait aussi ses looks en se mettant en scène dans les quartiers où se trouve une grande partie de la diaspora africaine à Paris. Et le petit plus, c'est qu'elle nous livre un récit plutôt positif. Elle a souvent dit avoir pu être rejetée par ses parents du fait de ce qu'elle est et de ce qu'elle fait. Et puis, elle a raconté que le soir de la finale, elle leur a écrit pour leur dire qu'elle pensait avoir une petite chance de gagner. Et là, ils lui ont répondu qu'ils se mettaient tout de suite devant la télé. Alors bref, merci Mami Wata. On est heureux de voir ces personnes queer, des femmes racisées à la télé, comme aussi Ebony de la Star Academy ou Romy, la gagnante de Secret Story, qui, par les vagues de racisme qu'elles se prennent, nous rappelle l'importance de leur visibilité.
Merci beaucoup Alexis. Et avant de se quitter, au lobby, on a l'habitude de se partager nos rococultures et sorties queer. Alors de mon côté, je vous invite à venir à la Flèche d'Or ce jeudi 18 septembre pour la release partie de l'EP de Power Bottom, avec en première partie les stars du folk rock lesbien Sexy Truck.
Clara, je crois que tu avais une reco à nous partager aussi.
Ma reco, c'est mon dessin animé préféré qui s'appelle Steven Universe. C'est un dessin animé musical où les chansons sont vraiment super et il y a plein de personnages non genrés parce que c'est des pierres. C'est hyper bizarre ce que je dis. Allez le voir, c'est très coloré, il y a plein de musique. Voilà. Et aussi un podcast qui s'appelle 26 rues des lesbiennes qui a pour but d'aller rencontrer des lesbiennes qui sont plus âgées et qui racontent leur histoire et avec un univers sonore hyper intéressant. Et qui est fait par Manu, qui est aussi notre ingé son studio. Voilà, celle qui a mix et master Murmure.
Trop bien, Timothée. Toi, tu as quelque chose à nous partager?
Oui, deux événements pour aller marcher. La marche Bipon qui aura lieu le 28 septembre et l'existence en terre qui aura lieu dans un mois, le 18 octobre. Et je recommande la soirée de soutien pour la communauté trans aux États-Unis le soir à la Flèche d'Or.
Alexis, toi, t'as quelque chose ?
Oui, c'est ma lecture de l'été, Bad Gaze, écrit par Ben Miller et Who... pardon, j'ai perdu le nom du deuxième auteur, désolé. Who LeMay, voilà, qui raconte un petit peu le fait que tous les gays ne sont pas très gentils, qu'il y a aussi des liens qui existent entre la communauté queer, l'extrême droite, voilà, ça nous raconte... des histoires de ces personnes-là dans les années 80-90, et ça fait des liens aussi avec ce qu'on voit aussi aujourd'hui. Voilà quoi.
Choquée, déçue. T'es jeune ?
Oui, moi je proposais du coup le Femstival, qui est un festival des féminités queer pour toutes mes lesbiennes femmes. Voilà, je vous embrasse. je crois qu'elles sont à Marseille en ce moment. Voilà, il y avait le Bunker aussi. Qui a un bar queer pour les personnes racisées et ses alliés, voilà, créé par Mia et Rio. Et ce bar se situe dans le 17e, mais elles font des soirées aussi en extérieur. Après, en film, je pensais à Happiest Season. C'est un film de Noël, donc faut le voir plutôt à Noël, avec Kristen Stewart. Voilà, et... mon amoureuse m'a dit de recommander deux livres, mais moi je lis pas. Du coup, je vais quand même les proposer parce qu'apparemment c'est super. C'est le livre Stone Butch Blues
que je n'ai pas vu.
Ah oui, incroyable.
Voilà.
Incroyable.
Et Hijab Butch Blues aussi. Voilà. Et la série Ultimatum Queer Love.
Absolument.
Sur Netflix.
Et moi, je suis très roman graphique. Alors, dans ce qui est sorti à la rentrée littéraire, je vous conseille de lire Transformé de Nikos Balboa. Et puis, la semaine prochaine, au Lobby aussi, on reçoit pour l'hebdo Quentin Zution pour la sortie de sa nouvelle BD Sage des éditions Le Lombard. Et puis, avant de se quitter, je voulais faire un petit bisou à Robert Redford, là où il est, qui nous a quittés aujourd'hui. C'était un chouette allié. En tant que président du Festival Sundance, il a contribué à visibiliser le cinéma queer, fiction ou documentaire depuis les années 1980. Donc, bisous à lui. Et voilà, le communautarisme gay, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Mal, merci Alexis, merci tout le monde, s'appelle Clara. Merci Timothée Magellan. Merci de nous avoir accompagnés ce soir.
Et merci Antonella.
Merci Maëlle.
Et on se retrouve dans un mois pour le Lobby mensuel. Et comme disait Antonella, la semaine prochaine, pour le Lobby l'hebdo avec une interview de Quentin Zution. Bonne soirée tout le monde.